Chapitre 12e au glacial. Le soir, Karim rentre chez lui. Il s'assoit à la table basse pour le dîner. Sont présents, outre sa mère, son frère Noureddin et sa sœur Jamila, tous les deux plus âgés par rapport à Karim. Le premier, 29 ans, la seconde, 31. Quant à Zaya, suivant son habitude, en présence de ce qu'elle considère trop de personnes, elle préfère s'isoler dans sa chambre. L'évocation des problèmes sociaux et les discussions les concernant trouble profondément son fragile équilibre psychique. Noureddin est entrepreneur dans une petite société de construction immobilière, spécialisée dans l'édification de logements privés. Jamila est docteur en électronique, professeur à l'université d'Oran. Elle put suivre cette formation grâce à une bourse d'État. Noureddin, lui, préféra renoncer au lycée pour, déclara-t-il, travailler de mes mains, comme mon père. Cela m'évite d'avoir mal à la tête. Contrairement aux autres membres de la famille, savourant la viande de mouton, Karim se contente du couscous, accompagné de légumes. Autant que possible, il évite de regarder les trois autres porter la viande à leur bouche. Cette vue lui est très pénible. Elle lui rappelle les fauves carnassiers, mais il ne peut décliner le traditionnel dîner pour ne pas causer de peine à sa mère. Le repas est accompagné de boissons sucrées. L'eau est dédaignée. Ces faits désolent fortement Karim. Tellement de fois il a expliqué à sa mère et aux autres membres de sa famille. Savez-vous que les peuples les plus atteints de diabète sont les musulmans? Pourquoi? Parce que n'aimant pas boire de l'eau, d'une part et d'autre part, s'interdisant le vin et la bière, ils se rabattent sur les boissons sucrées. Là est la cause de leur diabète. Dommage que le Coran n'a pas prévu cette situation. Mais nous possédons une raison. Il nous prescrit d'éviter ce genre de liquide. Malheureusement, vous les buvez et ainsi augmentez le risque de provoquer la maladie en vous. Vaines furent ces paroles de prévention. Noureddin et Jamila avaient fini par devenir diabétiques, sans toutefois renoncer aux boissons néfastes. La sœur scientifique déclara « Dieu a déjà décidé, avant même notre naissance, de la date de notre mort. Alors pourquoi nous préoccuper ?» L'entrepreneur acquiesça. Karim n'évoqua plus ce thème, se limitant à constater « Mystère de l'esprit humain. » Il n'oubliait pas l'aveu de sa sœur un soir. « Parfois il m'arrive d'avoir cette pensée, prendre ma voiture, aller sur une route périphérique très longue, accélérer au maximum et précipiter la voiture contre un mur pour nous fracasser, elle et moi. » À cette funeste confession, Karim, avec le maximum de délicatesse, conseilla à Jamila d'aller au plus vite consulter un psychologue ou un psychiatre. « Je ne suis pas folle !» objecta-t-elle avec des yeux gonflés par une agressivité qui laissa le frère totalement interdit. Il comprit la gravité de la situation. Il n'osa pas faire remarquer à la malheureuse. La santé du cerveau est comme celle du corps. Si on ne s'empresse pas de soigner les premiers symptômes, la maladie s'aggravera jusqu'à devenir fatale. Karim avait des motifs convaincants pour ne pas insister avec cette sœur. Le fait d'avoir accédé à l'honneur du doctorat scientifique, être devenu une enseignante renommée, avoir gonflé au maximum l'ego de cette parvenue sociale. Mais un hic contredisait cette gloriole. Aucun garçon ne daignait d'affection à cette doctoresse en électronique. C'est que deux motifs fort graves dissuadent même le plus frustré sexuel des hommes à éprouver un sentiment érotique pour Jamila. Son visage, avec deux joues grosses et pendantes, fait tout de suite penser aux deux fesses d'un porc, et ses prunelles gonflées sont pareilles à celles du même animal. Quant au caractère de Jamila, plus acariâtre, plus méchant, plus désagréable, impossible d'en trouver. Ajoutons la terrible ironie du sort, le nom Jamila signifie belle. Néanmoins, Madame Docteur, comme on l'appelle dans son travail, était obsédée par la conquête d'un homme en étant persuadée qu'il ferait la meilleure affaire de sa vie. Pour y parvenir, des tas de produits de maquillage pour le visage et les cheveux, mais cela revient à mettre du colle à une aveugle. Ne parvenant pas à trouver une proie, la docteure eut recours à un stratagème. Elle alla coucher avec le premier venu dans le but d'être enceinte, croyant ainsi contraindre l'homme à se marier avec elle. La ruse n'eut pas de succès. Chaque homme auquel cette femme s'offrait l'abandonnait assez rapidement. Ces échecs respectifs finirent par détraquer les neurones de l'électronicienne. Désormais, si elle continuait à maîtriser le fonctionnement d'un ordinateur, elle ne parvenait plus à faire correctement agir son cerveau d'être humain. Résultat, le refus de reconnaître sa maladie mentale finit par précipiter cette femme dans une affreuse paranoïa. « Tous, éructait-elle à la moindre occasion, tous, sans aucune exception, y compris les membres de ma famille, sont méchants et ne veulent que du mal. Ils sont tous malades, dérangés mentaux. » Karim tenta à plusieurs reprises de venir en aide à sa sœur, de la convaincre de consulter un psychiatre. Elle finit par y aller mais refusa de prendre les médicaments prescrits. « Je ne suis pas malade, je ne suis pas folle !» est devenu son leitmotiv. « Ce sont tous les autres qui sont fous, y compris le psychiatre !» Karim comprit avec tristesse que désormais, il ne pouvait rien faire contre ce naufrage psychique, masqué seulement par le fait que la sœur parvenait toutefois à poursuivre son activité professionnelle. Karim évita toute relation avec cette sœur, sachant le risque de s'empêtrer dans un marécage où il risquerait de se noyer. « Il est de mon devoir, conclut-il, de tenter de sauver quiconque se noie, mais pas s'il veut me tirer avec lui dans son marécage. » À la fin du dîner, pendant que les autres, y compris la mère, avalent la boisson sucrée fatale, les langues se délient. « J'ai appris, dit Noureddine d'un ton gentiment bourru, que tu emploies ton temps libre à aider au nettoyage des ordures. « Oui, confirme Karim. « Ne sais-tu pas que le temps, c'est de l'argent, comme disent les Américains. « Time is money. « Pour moi, le temps, c'est de la vie. « Je le comprendrais si tu étais milliardaire, mais tu ne l'es pas. « Alors pourquoi ne pas utiliser ton temps libre à te faire un peu plus d'argent ?» Le salaire de ton travail à l'hôpital est insuffisant. Et puis, tu dois te marier un jour. Comment, puisque tu n'as pas même une maison à toi? On peut vivre sans avoir de maison. Noureddine a un rictus, puis lance. Viens donc travailler avec moi. Je préfère avoir mon frère comme collaborateur, et nous en étranger. Tu sais que les gens sont tous des voleurs. En ce moment, la construction immobilière, ça marche, et j'ai des amis dans l'administration, là où il faut. En leur graissant la patte, je trouve mon profit. Et comme je suis devenu un militant du FLN, là aussi, en jouant habilement de l'Ashkara, des pots de vin, ça m'apporte du travail et donc du bénéfice. Je prévois même un jour de devenir député. Et alors ton frère rejoindra le club des milliardaires algériens. Et si je deviens puissant, toi aussi je te ferai député. Ce n'est pas la première fois que Noureddine présente sa proposition de collaboration. De nouveau, Karim avoue, avec simplicité, sans entrer dans une discussion susceptible d'embarrasser inutilement son frère. « Pardonne-moi, cher frère, je ne suis pas fait pour ton genre d'activité. J'aime mon métier d'infirmier. » Karim, pour ne pas heurter inutilement son frère, renonce à préciser. « Et je n'accepte que l'argent gagné honnêtement par mon travail. » « Cela, objecte l'ambitieux constructeur, ne te donnera pas une maison. »« Cela me permet, dit Karim, de m'endormir le soir avec sérénité. » Noureddine secoue la tête d'un air chagriné, puis s'écrie « Mais enfin, l'argent, Al-Flou, c'est important, c'est fondamental, c'est sain, c'est béni par Dieu, il est sur le biais du dollar. Sans argent, comment avoir ce dont on a besoin? Comment jouir de la vie? Et ne me répète pas ta perpétuelle réponse. L'argent ne fait pas le bonheur. Quel bonheur serait possible sans argent, hein? Quel bonheur? Dis-le-moi, frérot, toi, l'intelligent de la famille. » Ce dernier sarcasme à peine voilé tire à Karim un soupir bref. Il a envie de répondre à son frère, il hésite, puis se décide, sachant néanmoins le vain espoir de se faire comprendre. « Et la flamme intérieure, qu'est-ce que tu en fais ?»« Quoi ?» s'étonne Noureddine. « La flamme intérieure !» L'autre éclate du rire le plus sonore, en agitant le haut de son corps en arrière puis en avant. Ensuite, il réplique, sarcastique. « Pour les flammes, il y a les pompiers, frérot. Ajoutons que les flammes, ça brûle, ça réduit en poussière, en cendres. » Karim, sans se décomposer, considère son interlocuteur. Ce dernier revient à la charge avec une pointe de dédain. « Désormais, tu es un homme. Tu ne peux plus t'amuser à vouloir secourir les uns et les autres dans leur malheur. S'ils s'y trouvent, c'est de leur faute. Le monde est ainsi fait, depuis toujours et partout. Ce n'est pas toi qui changeras quoi que ce soit. Alors prends une carte de membre du FLN pour améliorer ta situation économique. » Tellement de gens le font, pourquoi pas toi? Pourquoi laisser aux salopards cette source de profit? Jamila intervient. Noureddine a raison. Aux dernières élections, moi j'ai voté pour le FLN. Il a vaincu les terroristes et nous a donné la sécurité pour travailler et vivre en paix. Le seul problème qui reste est le salaire trop bas de mon travail. Il faudrait une loi pour l'augmenter, pour satisfaire mes besoins. Et, lui demande Karim, les gens qui ont le dixième de ton salaire, eux n'avaient pas étudié comme moi. Eux, rétorque Karim avec calme, n'ont pas bénéficié d'une bourse d'État comme toi. C'est parce qu'ils ne l'avaient pas mérité. Je n'ai quand même pas étudié de longues années pour consentir à être traité comme eux, alors que les pauvres gens s'adressent à l'État, ou plutôt à Allah, pour les aider. L'invocation de Dieu de la part d'une personne nourrie aux sciences exactes et les pratiquant a toujours étonné Karim. Cependant, il connaît suffisamment sa sœur pour comprendre qu'elle jongle nonchalamment avec toutes sortes de contradictions, sans le moindre scrupule. Un soir, Karim osa, c'était plus fort que lui, ayant dans sa personnalité quelque chose de Don Quichotte bravant les moulins à vent. « Djamila, me permets-tu une question ?» Il précisa aussitôt, par précaution, pour éviter les soudaines et agressives colères de sa sœur. « Si tu trouves ma question impertinente, je te prie de m'en excuser, car mon intention est uniquement de raisonner ensemble, moi et toi. » Djamila le toisa de son habituel méchant coup d'œil, les pupilles écarquillées comme ceux d'un crocodile s'apprêtant à se jeter sur sa proie. « Parle, et je verrai quoi penser. Merci. Comment concilies-tu ton activité scientifique avec ta croyance en Dieu ?» Les lèvres de Djamila eurent un frémissement, prirent une torsion affreuse, puis elle grogna. « Pourquoi cette demande ?» Karim ne prêta pas attention à cette négative réaction. Elle ne le surprit pas. Il essaya donc de soigner l'esprit malade de sa sœur. Avec le ton le plus bienveillant, il déclara. « C'est parce que je me suis souvenu de ce que tu m'avais raconté une fois. Un matin, alors que tu te trouvais aux toilettes, dans ton appartement, il y eut un léger tremblement de terre. Alors, épouvanté, tu prononças le shahada. Une formule musulmane consistant à professer « Il n'y a de Dieu que Dieu, et Mohammed est son prophète. » Et alors, grommela Djamila, tout le flasque cortant du coma ressort et les traits du visage affreusement déformés, ajoutant à sa laideur naturelle. « Eh bien, précisa Karim, je me suis demandé, est-il permis de prononcer le nom de Dieu dans un cabinet de toilette ?» Très choqué et complètement embarrassé, Djamila rougit. Son frère bilaïde scolaire qu'elle éclatait, aussi s'empressa-t-il d'ajouter « Excuse-moi, je ne voulais pas stupidement te provoquer. Je désirais seulement te porter à raisonner, de manière à affronter ta vie harmonieusement. » Pour le reste, les considérations émises par son frère et sa sœur, Karim juge inutile d'exprimer ses opinions, afin de ne pas provoquer la guerre au sein de la famille. Il se dit « Si à présent, en Algérie, la police bastonne, emprisonne ou assassine des citoyens protestants légitimement contre des conditions de vie insupportables, Noureddin et Djamila justifient certainement ces crimes avec une assurance inébranlable, tant qu'ils bénéficient de leur sordide et abject appât du gain. » Karim jette un regard furtif et discret vers la sœur et son frère. Quelle serait leur réaction si la police m'emprisonnerait ou m'assassinerait, moi, leur propre frère ? Je suis certain qu'ils donneront raison à l'État, sous prétexte que je suis un fauteur de désordre qui mérite sa punition. Comme s'il avait deviné la pensée de Karim, Noureddin lui lance. « Avec tes idées, si un jour tu auras des problèmes, il ne faudra pas te plaindre. » Djamila ajoute. « Ni compter sur moi. Moi, désormais, je ne m'occupe que de moi-même. » Quant à Noureddin, il a raison. Comme on dit, celui qui sème le vent récolte la tempête. C'est toi l'unique responsable de ton malheur. Karim baisse la tête pour cacher sa désolation. Adieu, la sacrée fraternité familiale.